Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucie Gomo, Boris Pinot et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Théo Gomard, réalisation Thomas Beau. Autour de moi, Philippe Chevillier, Jean-Christophe Brianchon et René Solis pour parler ensemble de Tristesse d'Anne-Cécile Vandalem. En ce moment au théâtre de l'Odéon, Re-Paradise de Guanello Morin d'après Living Theatre. En ce moment au théâtre de Verdure, au théâtre Nanterre à Mandier. Et puis le paradoxe de Georges de Yann Frisch en ce moment au théâtre du Rond-Point. Aïssa Toundoy est également avec nous pour donner à entendre vos commentaires via la page Facebook La Dispute FC ou via le Twitter Dispute FC que vous pouvez suivre également. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir, des invitations pour le spectacle Au Bois d'après le texte de Claudine Galéa, mise en scène Benoît Pradel, des places à gagner pour jeudi 10 mai à 20h au Théâtre de la Colline à Paris. Anne-Cécile Vandalem, auteure, metteur en scène, comédienne, elle sera à l'affiche du prochain Festival d'Avignon avec sa nouvelle création, Arctique. Mais elle revient en tournée en France et à Paris, à l'Odéon, Théâtre de l'Europe, avec une pièce qui avait plutôt conquis Avignon déjà en 2016, Tristesse. Donc 3 semaines à l'Odéon en ce moment, on y retrouve la terrible Martha Heger, chef du parti du Réveil Populaire, dont la mère vient de se suicider en se pendant avec un drapeau danois. Tout ça se passe sur la petite île, habitée seulement par 8 personnes, l'île de Tristesse.
Maman Heger, c'est vous ? Merde ! Loki, il s'est pendu !
Elle s'est pendue !
Ouais. Il est temps de rentrer chez toi, non ?
Je voulais juste vous poser une question, c'est tout. Je voulais juste savoir comment s'appelle le restaurant dans lequel travaille Bob l'éponge ? Ce n'est pas compliqué, en fait.
Rentre chez toi, Thorel.
Prions le Seigneur pour qu'il accueille notre mère à tous, qui a décidé de nous, qui n'a pas cru en la grâce de Dieu, qui a perdu confiance.
Putain, t'as rien préparé ou quoi, Joseph ?
Si.
Mais vas-y, qu'est-ce que t'attends, là ? Vas-y.
De la croix, la grâce coule.
La note.
Voilà pour ce petit montage d'extraits de Tristesse, puisque maintenant même les théâtres font des aguicheurs, des teasers en bon français. René Solis va commencer à nous parler de ce spectacle d'Anne-Cécile Vandalem.
Alors, je dois dire d'abord que j'ai vu le spectacle à Avignon il y a 2 ans et je ne l'ai pas revu.
C'est très mal, vous avez un gage.
Je sais, René. C'est très mal et que j'ai un gage. Alors, je me suis posé en même temps la question,
je vais
évidemment.
Je vais réfléchir au gaz, hein.
Oui.
Et au gage.
Je me suis posé la question et je me suis dit mais alors bon il faut que j'aille le revoir et puis je me suis rendu compte que j'avais quand même un souvenir assez précis du spectacle et aussi un souvenir assez précis de ce que j'en avais pensé en sortant et je me suis dit eh ben voilà tentons le coup mais évidemment je suis obligé de le dire donc
oui, moi vous êtes honnête.
Ça s'entend. Je voudrais parler un peu du souvenir de ce spectacle et de dire que je me souviens de la grande chaleur de la réception du public à Avignon. C'est un spectacle qui était très très bien accueilli et je me rappelle aussi que j'étais pas vraiment dans le même enthousiasme qu'une grande partie des spectateurs. Non pas que je trouvais ça mal fait, au contraire même, je trouvais ça plutôt extrêmement bien fait. Il faut dire quand même que c'est un spectacle qui mêle constamment cinéma et théâtre, et on peut même dire que le cinéma l'emporte presque sur le théâtre. C'est en tout cas l'impression que j'en avais. Et par ailleurs que la structure même de la pièce telle qu'elle est écrite ressemble beaucoup à une structure de mini-série télé. Donc c'est un huis clos dans une île, et les références esthétiques, en tout cas c'est comme ça que je l'avais ressenti, sont je trouve très proches de séries télé, hein. C'est vraiment le modèle. Alors c'est intéressant parce que on retrouve ça dans pas mal de spectacles d'aujourd'hui. On se rend compte que à quel point cette esthétique de la série imprègne le théâtre, et c'est pas forcément pour des mauvaises raisons, parce qu'on peut aussi penser que une bonne partie du théâtre tragique du début du XXIe siècle se joue dans les séries, et donc voilà, il y en a d'excellentes. Je suis pas moi-même un grand regardeur de séries, mais je sais que à cette table même il y a des fans de séries, et
je le confirme.
Quand j'en regarde, je trouve ça très bien. Donc mais je me faisais la réflexion, pardon, je suis peut-être un peu long, en sortant, de me dire mais finalement, si elle aime autant les séries et si elle aime autant le cinéma, cette Anne-Cécile Vandalem, pourquoi est-ce qu'elle fait du théâtre? Qu'est-ce que le théâtre apporte à ça? Et j'étais pas complètement sûr. C'est-à-dire que j'ai trouvé cette histoire extrêmement bien faite, bien construite, bien jouée, bien tournée, bien intentionnée, y compris politiquement. Et je disais oui, bon, d'accord, mais je comprends toujours pas réellement pourquoi elle convoque le théâtre alors qu'elle a visiblement envie de faire autre chose. C'était un peu le sentiment que j'avais. Voilà, c'est première sensation, premier souvenir de ce spectacle.
Alors, puisque vous parlez, René Solis, d'images filmées, d'images vidéo et de plateau, simplement donner quelques images pour dire que sur le plateau, il y a trois maisons et une église, et que tout ce qui se joue à vue des spectateurs sur le plateau se joue à vue des spectateurs sur le plateau, et tout ce qui se joue dans les intérieurs est filmé et retransmis sur un écran vidéo un peu en hauteur au centre du plateau. Et donc c'est le principe, quasi sans exception, on y viendra sans doute, n'est filmé que ce qui n'est pas visible, ce qui est le hors-champ pour le spectateur, et en l'occurrence soit à l'intérieur des maisons, soit derrière. Donc ça, c'est un principe assez simple. Je m'exprimerai tout à l'heure à ce sujet. Jean-Christophe Brianchon, pour poursuivre.
La question que se pose René se pose effectivement, et se pose même réellement chez Anne-Cécile Vandalem, puisque pour en avoir discuté plusieurs fois avec elle, elle ambitionne effectivement de faire du cinéma. Donc c'est une question qui se pose de manière théorique, mais que ne pose pas exactement la pièce, selon moi. Parce que, et c'est justement une des raisons qui font que cette pièce est bien, j'allais dire bien exécutée, mais en tout cas apporte quelque chose de différent de ce que peuvent apporter les pièces qui mettent de la vidéo au théâtre aujourd'hui, dans le sens où la vidéo et le cinéma sont réellement, selon moi, au service, ou en tout cas rentrent en résonance avec, d'une certaine manière, ce que veut dire la pièce, à savoir que la pièce entretient un rapport assez singulier au temps et à la mémoire du temps, puisque en s'emparant du réel pour en faire une fiction, elle utilise évidemment cette matière réaliste comme étant, comme ayant à voir avec la mémoire. Et le cinéma ici sert en partie à enregistrer le réel, puisque finalement on ne sait, de par le dispositif qui est proposé, si on voit simplement une pièce de théâtre ou bien si on voit le film du réel qui s'est passé un jour. Donc on ne sait si on voit le réel se faire devant nous ou si on voit le réel qui a simplement été enregistré. Donc le cinéma finit par être un médium qui est au service de son propos, ou en tout cas une partie de son propos, puisque le cinéma, ou en tout cas la vidéo, enregistre ce réel pour faire en sorte, d'une certaine manière, qu'il ne soit jamais oublié. Et cette, ce qui fait qu'Anne-Cécile Vandalem a aussi ce désir peut-être de faire en sorte que le passé ne soit pas oublié, c'est le propos même de cette pièce, qui est un propos, on n'en a pas encore exactement parlé, mais selon moi très politique, bien que ce ne soit pas du théâtre politique au sens où ce n'est pas un théâtre revendicatif. Mais il semble nécessaire, selon elle, de ne pas oublier, puisque il s'agit en fait d'une île du nord de l'Europe sur laquelle meurt la mère d'une femme présidente d'un parti nationaliste qui s'apprête à devenir première ministre du pays. Et à partir de cette histoire-là, va se faire et se défaire toute l'histoire du nationalisme d'aujourd'hui, même au-delà de ce pays, du nationalisme européen d'aujourd'hui, qu'il semble nécessaire de contrer et à laquelle cette pièce semble, ou en tout cas à la mort de laquelle cette pièce semble essayer de contribuer, justement par ce dispositif cinématographique qui, selon moi, va bien au-delà de la forme, pour nourrir le propos ou l'envie de la metteuse en scène.
Philippe Chevillier sur Tristesse d'Anne-Cécile Vandalem.
Alors moi, je le voyais pour la première fois. Alors 2016, je ne sais pas, je devais être à la piscine ce soir-là. Je l'ai
certainement.
Raté.
Vous avez souvent piscine, hein. Et surtout à Avignon.
Voilà. Ah oui, c'est normal. J'ai été, moi, le spectacle m'a doublement impressionné. Enfin, il m'a impressionné à deux titres. D'abord, au niveau de l'écriture, parce que je trouve que c'est quand même assez gonflé d'arriver à nous faire un texte qu'elle a écrit elle-même, parce qu'elle fait tout. C'est une femme orchestre, Anne-Cécile Vandalem, et d'arriver à la fois à conjuguer l'écriture un peu d'un scénario, d'une série télé, comme vous disiez, et en même temps d'avoir une fable politique, et de l'orgner aussi vers le polar nordique, avec une dimension en plus fantastique, un petit peu tout là-dedans. Il y a en plus un rapport dans le texte, dans les dialogues qui sont parfois dramatiques, surtout dans l'action, et puis parfois qui sont dans l'humour noir. On a donc ces aspects qui sont tous regroupés en un même texte. C'est quand même impressionnant qu'elle arrive à peu près à manier tout ça sans qu'on se perde et sans qu'elle se perde et sans que la pièce se perde. La deuxième chose qui m'a impressionné, c'est la mise en scène, parce que justement, moi, sur le rapport cinéma-théâtre, finalement, c'est vrai qu'on en avait beaucoup depuis deux ans. Je trouve que c'est assez équilibré et je comprends ce que disait Jean-Christophe sur l'aspect, le fait que cette dignitaire du parti qui va devenir donc le Premier ministre a l'intention de faire de cette île des studios pour faire de la propagande. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport au cinéma. Bon, mais au-delà de ça, je pense que j'ai trouvé ça assez équilibré. Et surtout, ce que je trouve fort, c'est la façon dont elle arrive à créer une atmosphère. Et ça, elle le crée pas seulement par le cinéma, elle le crée aussi par la musique. En faisant mélanger les morts et les vivants, et les morts, les fantômes font de la musique. C'est eux qui font la bande son, qui chantent très bien. Il y a une très, très bonne chanteuse. Il y a de très bons musiciens. Donc, c'est vrai que je me dis quand même, c'est un spectacle qui est extrêmement bien fait, qui arrive à peu près à son but. C'est-à-dire, on est assez content du dénouement de la série télé, du polar et de la fable politique. Après, les réserves que je ferais sont de deux ou trois ordres. C'est-à-dire que je trouve que le jeu des comédiens est un peu inégal. Moi, je trouve Anne-Cécile Vandalem très bien, mais il y a pas mal de comédiens que je trouve un peu
en dessous. Elle joue elle-même, la fameuse Martha Eger.
Voilà, elle joue elle-même,
c'est fait
tout. Il y en a d'autres qui jouent bien, mais j'ai trouvé que c'était assez inégal. Et j'ai trouvé surtout que le texte et la pièce se délitaient un petit peu vers la fin, et que la fin paroxystique, donc on ne dévoilera rien, la façon dont c'était mis en scène, c'était un petit peu raté, le final. Ouais. Donc voilà. Et pour finir, que c'était un petit peu long quand même, qu'il y a un peu des tunnels, mais sinon c'est quand même un spectacle que je trouve intéressant parce qu'il est populaire et exigeant en même temps. Je pense qu'il peut rallier pas mal de gens qui regardent des séries télé, qui vont jamais au théâtre d'habitude, donc, et pour tenir un propos intelligent.
Oui, alors, je vous rejoins sur le final. C'est vrai que, on va dire que la fin ne fonctionne pas très bien, à mon sens. On aurait pu avoir un traitement peut-être plus rapide, plus délirant, qui aurait pu ressembler d'ailleurs au reste du spectacle, parce que moi je reviens quand même sur la scénographie que je trouve très, très judicieuse, très efficace, avec ces petites maisons comme des jouets, c'est comme des Lego agrandis, hein, c'est vraiment une épure de maisons, l'utilisation très simple et très rigoureuse de la vidéo comme je l'ai signalé tout à l'heure. On parle quand même en effet de montée du populisme et de la peur des migrants. Rappelons que le spectacle a été écrit il y a donc bien plus de 2 ans maintenant. On parle aussi des violences faites aux femmes, violences domestiques, qui est quand même un personnage de mari, de père, qui est absolument terrifiant, d'autant plus terrifiant qu'il a un aspect comme ça très bonhomme. Il fait partie des personnages, disons, qui sont plutôt dans le comique, sauf que le comique devient souvent très très dur, violent, très très noir dans l'écriture d'Anne-Cécile Vandalem. Et moi, j'aime beaucoup ce mélange des registres, un burlesque très très belge, on va dire. C'est une qualité, à mon sens, au drame véritablement. Dans cette partition musicale, moi, je me rappelais pas que c'était aussi beau que cela. Donc, ce sont Vincent Cahay et Pierre Kiesling qui ont assuré cette composition musicale. C'est Françoise Vanek, qui est la soprano et qui joue également d'ailleurs du piano dans ce spectacle. Et puis, il y a un travail sonore de Jean-Pierre Urbano. Donc, je les cite aussi tous quatre, parce que vraiment, la musique est... On en voit beaucoup de musique en direct sur les plateaux de théâtre avec des bonheurs très différents. Et en plus, ils ont une part de jeu, ces musiciens, puisque ce sont des présences fantomatiques avec un déplacement extrêmement lent, enfin de zombies très 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 ralenti. Et je trouve que c'est tout à fait réussi, même dans la partie vidéo, il y a des effets films d'horreur très drôles avec tout d'un coup l'apparition d'un personnage au deuxième plan avec deux jeunes filles dont on n'a pas parlé, qui sont les deux jeunes sœurs et qui sont remarquablement choisies, enfin qui ont vraiment une très belle présence. Donc moi je suis assez épaté par cette écriture de Cécile Vandalem, que je trouve très, très précise. Enfin, il y a quelque chose de très juste dans cette écriture. Voilà, regret en effet pour ma part également que le final soit pas à la hauteur, ce qui est quand même dommage parce qu'on finit sur cette impression-là, alors que pour moi, disons qu'il y a au moins 80% ou 90% du spectacle qui est vraiment de haute qualité. Avant de faire un petit tour de table encore, Aïssa Tounedoï, quelques commentaires sur les réseaux sociaux concernant Tristesse?
Quelques commentaires. Ludovic Morin sur Facebook, il écrit: j'ai passé un bon moment, il se passe plein de belles choses pendant les 2h20 de spectacle. Un peu trop peut-être, trop de musique, de chants, de vidéos. Tout n'est pas justifié selon lui, c'est un bon plat, mais trop salé, trop épicé à son goût. Il a cependant hâte de voir le prochain spectacle d'Anne-Cécile Vandalem, Artique, qui, je crois, débutera sa tournée au Festival d'Avignon cet été.
Absolument.
Je poursuis avec Bruno Michel sur Twitter. Il nous dit: oui, extrêmement bien fait, mais un texte qui me laisse perplexe. Bon, les fachos sont des salauds, et ce qui est bien pratique, c'est que ce sont en plus des escrocs qui fabriquent les désespérés qui vont voter pour eux. Mais c'est très bien joué, filmé et chanté. Barbir nous dit: magnifique huis clos sur les ravages du capitalisme, leur exploitation politique ou comment on nous manipule. Le dispositif tient en haleine et maintient la tension narrative.
Bon, ça vous évoque plus de souvenirs encore, René Solis?
C'est intéressant d'entendre ces commentaires parce que je retrouve, et dans tout ce que vous avez dit, je pense que c'est incontestablement très bien fait. Voilà, il y a du travail,
efficacité,
y a une efficacité. Et d'ailleurs, il y a une efficacité qui fait qu'on l'oublie pas. Sur le décor, effectivement, ces maisons de poupées, ces Lego qui sont en même temps un studio de cinéma, ouais. et les deux plans. Ce que je reproche en même temps, enfin, c'est cette capacité à très bien faire les choses et à un peu trop les maîtriser les unes après les autres. Et il y a un ensemble qui finalement m'a laissé un petit peu en dehors. Je disais, bon, c'est très bien fait.
Très bien fait. Spectateur extérieur.
Et je rejoins aussi le commentaire sur la relative bien-pensance politique. Alors, bon, mais oui, tout ça est très bien. C'est des fachos, en plus c'est des escrocs. Voilà, effectivement. Donc, bon, pas mal, hein, c'est pas...
pas mal, Philippe Chevillé.
Oui, il y a des fachos, des escrocs, mais c'est vrai qu'il y a aussi chaque personne qui finalement se retrouve face à ses propres lâchetés, etc. Je trouve que c'était aussi intéressant de cette façon, encore une fois, qu'elle a d'embrasser énormément de choses, et notamment vous parlez de la violence faite aux femmes. Une actrice que je trouve vraiment formidable, que je voulais signaler, c'est Anne-Pascale Clérambourg, qui joue le rôle d'Anne Peterson, la femme du maire, qui est humiliée, battue par son mari, et je trouve vraiment qu'elle est très bien. Moi, ce que je me disais, moi aussi qui n'adhère pas quand même à 100% au spectacle, je pense que ce qui est intéressant, alors on peut retourner ce que dit René en disant finalement les émotions qu'on peut avoir dans des séries, c'est pas mal d'arriver à les transposé théâtralement et d'avoir ces ressorts justement qui sont ceux du suspense, du rebondissement. On le voit ça dans d'autres spectacles, hein. Elle n'invente rien à ce niveau-là, mais et je pense encore à l'idée du polar nordique qui est très à la mode, de se dire que finalement des gens vont voir ça en se disant mais au théâtre on peut avoir aussi cette addiction à une histoire et puis que ça soit et qu'il y a un propos derrière quand même et en plus que ça marie la bande son qui est importante aussi dans une série où il y a aussi des chansons mais là qu'il y a un tout musical théâtral télévisuel cinéma c'est quand même pas mal réussi dans le genre et finalement assez il y a quand même une singularité par rapport à d'autres spectacles du même genre.
Ah oui, moi je trouve qu'il y a une véritable singularité. Enfin, on ne voit pas des spectacles comme Tristesse très souvent. Il y en a d'autres dont on parlera, pas forcément aujourd'hui, dont on parle semaine après semaine, dont on se dit mais un peu d'originalité, que diable. Eh bien, il y en a beaucoup, moi je trouve, chez Anne-Cécile Vandalem. Un dernier mot, Jean-Christophe Brianchon ?
Oui, il y en a effectivement beaucoup et je trouve que c'est presque pas possible de dire que c'est seulement pas mal parce que c'est quand même...
C'est possible, il l'a fait.
C'est possible parce que tout est possible et on a le droit de tout dire, bien entendu. Mais enfin, je trouve ça vraiment dur parce que là, on... Bon, alors déjà, juste pour ce qui est de la bien-pensance... Bon, les fachos sont des escrocs. Après, je sais pas si le réel est exactement différent de ce qui nous est montré là. Enfin, est-ce que les fachos dans la vraie vie ne sont pas des escrocs? Enfin, je sais même pas si la question se pose. En fait, donc de là à dire que c'est de la bien-pensance, je trouve ça un petit peu compliqué.
Ils sont pas que fachos, c'est ça qui est bien. Il y a une intrigue, plusieurs rebonds dans cette pièce.
Oui, comme dans la vraie vie, c'est des escrocs.
C'est un peu plus complexe que ce qu'on peut croire.
Mais au-delà de ça, je pense que là, c'est quand même un spectacle qui propose une écriture bien au-delà du texte et du langage, qui est déjà une proposition rare, selon moi, parce que et pourtant, je suis pas un grand partisan du théâtre d'histoire ou du théâtre de récit qui s'empare du réel pour le fictionnaliser comme ça. C'est pas forcément ma tasse de thé, mais là, quand même, force est de constater que la maîtrise est assez rare pour être remarqué. Et au-delà de ça, l'écriture de ce spectacle propose quelque chose qui de très singulier aussi, dans le sens où chaque médium est utilisé de manière, on va dire, à faire de la pièce un geste un petit peu téléologique, où tout serait utilisé indépendamment pour qu'à la fin, une fois se réunissant, chacun des médiums finisse par construire comme une sorte de bâtiment qui lui-même aurait un sens et qui, une fois la pièce terminée, permettrait à son spectateur de comprendre ce qu'il a vu. Donc il est compliqué de parler du texte ou de la vidéo ou de la scénographie. Je trouve que c'est une pièce, et c'est aussi là qu'elle est forte, qui parvient à entremêler dans son écriture de mise en scène et de théâtrale au plateau, tout plein de médiums qui, in fine, proposent quelque chose de très différent et de beaucoup plus exigeant que ce qui se fait bien souvent, selon moi.
Bien, voilà pour Tristesse d'Anne-Cécile Vandalem qui se donne jusqu'au 27 mai à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Je me demandais si le texte était édité quelque part, mais j'ai pas mis les lunettes sur moi. Non, c'est pas assez étrange, j'en publie beaucoup de textes bien moins bons. Bon, avis à l'Arche, au Solitaire Intempestif, au Acte Sud, pourquoi pas, papier, pour éditer Anne-Cécile Vandalem pour l'instant, donc jusqu'au 27 mai, à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Signalons, oui, Philippe Chabot.
Oui, je crois, j'ai cru comprendre qu'en fait, Anne-Cécile Vandalem, elle joue plus à partir du 8, elle est remplacée.
Oui, alors il y a une distribution en alternance, elle jouait quelques soirs encore, et ce sera ensuite Florence Janas qui reprendra ce rôle, même pour la très jeune fille, Malène, le rôle de Malène, il y a une alternance, ça c'est une question légale, je crois, pour les mineurs. Ouais. Et puis effectivement, signalons que la nouvelle pièce d'Anne-Cécile Vandalem, qui je crois sera créée dans son pays, c'est-à-dire en Belgique,
a déjà été créée en janvier.
Ouais. Et ben, elle sera au Festival d'Avignon du 18 au 24 juillet, donc Arctique. Et puis ensuite, oui, effectivement, c'était en janvier à Bruxelles. Et puis ensuite, on verra ce spectacle, notamment en France, à partir du mois de novembre au Havre, ou à Caen, à Compiègne, à Lyon, à l'Odéon, ce sera au mois de janvier, à la Comédie de Saint-Étienne, et dans d'autres lieux encore. À suivre, dans la dispute, le Living Theatre réactivé par Gwenaël Morin et la magie nouvelle de Yann Frisch.
France Culture,
la dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette dispute consacrée ce soir au théâtre avec un de nos metteurs en scène, à mon sens, les plus passionnants, Gwenaël Morin, passeur inlassable de quantité de textes. Il aime aussi réactiver certains spectacles, comme il avait pu le faire, notamment aux Amandiers de Nanterre avec les Molières de Vitesse. Cette fois-ci, cinquantenaire oblige, il propose Re-Paradise, soit une revisitation du spectacle Paradise Now, proposé par le Living Theatre. C'était au Festival d'Avignon 1968, pièce qui fit, on va le rappeler dans un instant, scandale à l'époque.
Où êtes-vous ?
Me voici.
Combien de temps vivrez-vous ?
Le temps de se révolter.
Que voulez-vous ?
Faire briller le monde de création.
Rendre la vie irrésistible.
Sentir tous les gens.
Retrancher les couches de violence.
Faire du travail utile.
Travailler pour l'amour et non pour l'argent.
Vivre sans la police.
Me changer moi-même.
Se débarrasser du système de classe.
Réinventer l'amour.
Rendre chaque instant créatif.
Être libéré de la force d'État.
Être libre de créer.
Se débarrasser d'une vie d'avarice matérielle.
Libérer toute l'énergie gaspillée dans les transactions financières.
Supprimer de l'existence tout le temps gaspillé en bureaucratie.
Libérer les hommes des armées.
Cesser de manipuler l'esprit des gens.
Cesser d'abîmer le corps humain à coups de frustration.
Apprendre à respirer. Vivre plus longtemps que nous ne le faisons.
Être libéré du système.
Se débarrasser du contrôle central.
Produire ce dont nous avons besoin.
Rechercher ce que nous désirons.
Cesser de gaspiller la planète.
Cesser de mourir de compétition.
Faire tomber les murs qui emprisonnent.
Découvrir Dieu dans sa folie.
Clarifier la destination. Comment ça s'appelle-t-il ?
A. N.
A.
R.
C.
H.
C'est
bizarre,
juste A. G. C. Un tranquille d'abord.
A.
Voilà pour cet extrait de Re-Paradise, en ce moment à Nanterre-Amandier. Alors, une petite leçon d'histoire, peut-être. Vous haussez les sourcils, Jean-Christophe Briançon, vous voulez pas nous raconter? Vous étiez à Avignon en 68, j'imagine.
Bien sûr.
Vous étiez,
je l'ai vu deux fois à l'époque.
Vous l'avez vu deux fois. Non, mais ça risque pas parce que le préfet interdit la deuxième. parce que, effectivement.
Démasqué déjà.
Parce que Living Theatre était invité, c'était juillet 68, au Festival d'Avignon, présentait trois spectacles. Je ne sais plus quels étaient les deux premiers parce que. Mémoire un peu est vacillante, mais en tout cas, quand le Paradise Now fut joué, qui s'est terminé par une procession dans les rues d'Avignon, ça a fait un tel scandale que le préfet a interdit qu'il y ait une deuxième représentation. Malgré tout, ce spectacle a été joué encore deux ans, je crois, jusqu'en 70, dans différents lieux du monde. Et à la fin des représentations, le Living Theatre s'est dissous, chacun allant son chemin. Vous saviez cette histoire, Jean-Christophe Briançon? Vous la connaissiez?
Alors, je savais pas.
Faut que je demande à René Solis, ce côté
histoire. Deuxième
parce
avait
parce que lui n'était interdite. Pas 68, il est beaucoup plus jeune que vous, il n'était pas 68
bah oui.
À Avignon, René.
Il est mieux conservé que moi.
Oui, donc, moi, j'ai vu le spectacle il y a 50 ans et je ne l'ai pas revu parce que je m'en souviens très bien.
Vous savez que c'est pas tout à fait le même. Bon, vous allez nous faire ça avec tous les spectacles, c'est une bonne idée. Bon, qu'est-ce que vous avez vu, Jean-Christophe Briançon, en allant aux Amandiers de Nanterre sans rien savoir de cette histoire?
Non, je la connaissais, l'histoire. Je savais juste pas que ça avait été interdit, que la deuxième avait été interdite, mais je connaissais l'histoire. Et bon, alors déjà, j'y allais plus ou moins à reculons parce que cette idée de réactivation des pièces passées. Alors c'est pas que je dirais pas que je suis contre, ça n'aurait pas de sens, mais en tout cas ça me pose réellement question. C'est une question que je m'étais déjà posée ces dernières années au Festival d'automne, qui propose régulièrement des réactivations de performances passées, surtout en danse. Et bon, ça pose évidemment plein de questions, et en l'occurrence encore plus quand il s'agit d'une pièce créée en 68 au moment de l'anniversaire de 68 dans le cadre d'une sorte de temps fort du théâtre Nanterre-Amandier, qui lui-même propose de...
C'est le festival Monte Possible au
voilà,
théâtre
Monte Possible, qui propose de réfléchir d'une certaine manière aux continuations possibles de 68. Ça pose donc problème parce que, évidemment, que vouloir réactiver 68 en rejouant 68... Sans vouloir chercher bien loin, on voit tout de suite la limite, quoi. Enfin, on se dit qu'évidemment, si on en est là, c'est que finalement, soit 68 a échoué, soit on n'a pas été assez fort pour le faire fructifier correctement aujourd'hui en 2018. Donc bon, alors c'est peut-être aussi un des avantages de cette pièce, de nous montrer ça. Ensuite, je pense que sur le plan, on va dire, théâtral, d'une certaine manière, ça pose aussi le problème de la formalité, à savoir que, évidemment, la subversion qui était celle de cette pièce à l'époque n'est plus...
Elle reposait sur quoi ?
Reposait sur, évidemment, la nudité, sur l'interaction avec les spectateurs qui, paraît-il, à l'époque, avaient... effrayer certains d'entre eux, et puis sur aussi, je pense, d'une certaine manière, l'ambiance qui est créée, les hurlements, certains slogans qui peut-être mettent mal à l'aise certaines personnes, puisque bon, alors pour faire simple, alors les slogans sont eux-mêmes parfois assez simplistes, mais la pièce débute avec des comédiens qui déambulent au milieu du public à coups de phrases un petit peu sentencieuses, la première étant je crois, je ne peux pas voyager sans passeport ou quelque chose,
oui,
comme ça, je ne peux
oui,
pas
ça, oui.
voyager comme depuis qu'on m'a envoyé, enlevé mon passeport ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il y a quelque chose comme je ne peux pas vivre sans argent ou quelque chose comme ça. Bon, donc c'est évidemment des phrases qui peuvent éventuellement créer un malaise, d'autant plus que nous sommes pris à partie par des comédiens qui viennent nous prendre par la main, qui par la suite du spectacle nous demandent, sans nous obliger pour autant de participer éventuellement à la performance, en allant auprès d'eux, supposément, enfin, le présupposé étant que si nous le souhaitons, nous pouvons agir de la même sorte qu'eux, donc éventuellement nous mettre nus et danser avec eux au milieu du plateau. Donc à l'époque, ça devait être subversif. Aujourd'hui, ça l'est évidemment un petit peu moins. Et ça l'est d'autant moins que ça nous montre aussi les limites du théâtre post-dramatique tel qu'il a été pensé ou tel qu'il n'a plus et peut-être d'une certaine manière a été pensé ces 40 dernières années, puisque justement on voit ici quelque chose qu'on est encore très habitué à voir aujourd'hui. Donc de la même manière que ça pose des questions sur l'échec des idéologies de 68, ça pose aussi la question de l'échec des avancées formelles du théâtre contemporain d'aujourd'hui. C'est d'une certaine manière intéressant, mais c'est aussi un petit peu agaçant.
Bah, un point d'histoire, moi je trouve que c'est toujours intéressant, me semble-t-il, mais je vais laisser parler Philippe Chevillé sur cette réactivation, ce Re-Paradise proposé par Gwenaëlle Morin. Il faut le dire qu'il s'est appuyé sur une documentation absolument pléthorique, y compris une certaine forme de réécriture parfois par les membres même du Living Theatre. Cette pièce, je l'ai dit, a beaucoup tourné dans le monde entier, a beaucoup fait parler d'elle, donc il y a beaucoup de témoignages, de documents.
Oui, avec chaque fois des distributions différentes,
oui,
puisqu'elle était jouée dans la langue des pays.
Voilà, selon les pays et selon les lieux. Philippe Chevillé ?
Alors moi, je suis pas d'accord avec Jean-Christophe, parce que d'abord, moi j'aime bien qu'on...
Ça commence bien.
J'aime bien justement qu'on puisse, peu importe ce que l'effet que ça produit, parfois négatif, parfois positif, mais justement d'avoir cette mémoire du théâtre et de pouvoir reproduire au théâtre et non pas par captation seulement des spectacles historiques, ça permet parfois de relativiser l'enthousiasme qu'on a eu à l'époque, mais ça, je trouve ça très bien. Le fait que ça soit Monde Possible qui fait venir aussi Angela Davis, Tariq Ali, des gens très différents et qui nous donne l'occasion de voir un spectacle emblématique de 68 quand c'est fait par quelqu'un qui a de la bouteille.
Oui, très fort, il est très fort, Gwenaëlle Morin.
Donc, je trouve ça intéressant. Et puis, du coup, je trouve ça passionnant de voir comment justement ce propos qui est un propos pacifiste, inspiré un peu, alors c'est un peu Marx, Gandhi, Antonin Artaud pour le théâtre, on a un peu tout ce mélange. Et comment justement Gwenaëlle Morin a choisi d'y aller franco, c'est-à-dire sans ironie aucune, de prendre 35 comédiens et pas de prendre forcément des amateurs pour faire ça.
C'est sa troupe, hein, celle du théâtre.
Sa troupe,
comment
plus,
ça s'appelle
plus
théâtre du point
autres.
Du jour à oui, Lyon, qui est le théâtre permanent qu'il active, dont voilà. On joue tous les soirs, on répète tous les soirs.
On retrouve Ulysse Pujol, retrouve Barbara, Barbara Jung et Julianne Eguéric notamment, ouais. qui sont dedans. Et donc, on voit ce spectacle. Alors, il y a des choses extrêmement datées dans ce qui se dit, extrêmement naïves. Et
logique.
C'est amusant, d'ailleurs, parce qu'on peut en rire. On peut aussi voir comment le public réagit. Moi, j'étais au premier rang en tailleur. J'étais pas très à l'aise.
En tailleur.
Pas en tailleur. Assis en tailleur.
Assis en tailleur, d'accord. Je croyais que c'était habillé en tailleur.
Donc, je n'ai pas participé. Je n'ai pas participé à la séance de câlin collectif au milieu de la scène.
Et vous l'avez regretté.
J'ai quand même eu le crâne béni par un acteur, un crâne sacré, Mathilde. Voilà. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a du coup ce côté qui peut être parfois un peu, qui pourrait être un peu ridicule, est mené avec une frontalement. Il nous le présente. Et en plus, le côté performance qu'il est impossible de représenter aujourd'hui, le contexte qu'il est possible de représenter, il y a un décalage qui se fait parce que il le transforme en théâtre. Et c'est ça que je trouve intéressant. Alors, par moment, on peut sortir du spectacle parce que trouver. Mais c'est intéressant à cause de ça. Et la deuxième chose que je trouve intéressante, c'est de voir combien, justement, c'est un peu alors, ce que vous disiez, comment, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas transposer aujourd'hui parce qu'on ne peut pas comparer, par exemple, les Black Blocs avec le Living Theater. Et comment aussi, alors on en reparlera peut-être après dans une deuxième intervention, si vous me donnez la parole.
Mais avec joie, que vous soyez assis en tailleur ou sur votre fauteuil.
Mais c'est intéressant aussi sur ce que ça dit du théâtre d'aujourd'hui. Ça, Jean-Christophe l'a amorcé. Je trouve ça intéressant parce qu'on peut faire des correspondances quand même avec le théâtre d'aujourd'hui.
René Solis, sur ce Rip Paradise à Nanterre.
Oui, donc non, je ne l'avais pas vu à l'époque. Je devais avoir une dizaine d'années. Mais moi, je trouve ça plutôt très bien parce que il le fait avec... il ne se moque pas. On a vu d'ailleurs de Avignon, je crois que c'est Olivier Py qui s'était moqué du Living justement dans un spectacle sur Villard qui n'était pas ce qu'il avait fait de mieux à Avignon parce qu'il y avait un côté un peu.
C'est pas ce qu'il y avait de plus fin, oui.
Oui, c'est facile quoi. C'était. Et là, il s'en moque pas du tout, mais il a de l'humour. C'est-à-dire qu'il a, il y a du plaisir à le faire. Il fait ça avec une joie. On sent que les acteurs sont contents de le faire. Et effectivement, c'est très bien qu'il ait pas pris des amateurs. Il y a sa troupe, son doyau dur, mais il y en a beaucoup d'autres de pièces rapportées qui viennent d'univers, de Nordais, et qui sont très bien. Et donc, ça donne une tenue au spectacle. C'est-à-dire, on sent que c'est un spectacle qui est très tenu, en fait. Et puis, il y a quelque chose de joyeux. Ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on entend effectivement aujourd'hui, à la fois qui est daté et qui fait sourire, et on se dit ça va pas. Et en même temps, on peut se dire que peut-être qu'on entend mieux des choses qu'on ne les aurait entendues il y a 25 ans. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans l'ère du temps, de l'anticapitalisme, y compris la liberté sexuelle, de l'écologie, il y a, je pense, des thèmes et des choses qui peut-être peuvent toucher de nouveau, y compris des publics plus jeunes. Donc voilà. Donc tout ça, c'est plutôt bien. Après, on touche aussi évidemment les limites. Ça ne prétend pas. On se rend compte, c'est intéressant, que ce spectacle mythique est quand même un spectacle qui n'est pas sans doute fondamental dans l'histoire esthétique du théâtre, en tout cas. C'est vraiment un moment politique. Mais l'esthétique elle-même, elle est, il faut le dire, assez pauvre. Et surtout, elle est. On aurait tort d'y voir une sorte de manifeste de esthétique des années 70 sur la danse contemporaine. Ce qui est à l'œuvre dans le spectacle est d'une extrême faiblesse totalement indigent, et était déjà à l'œuvre bien avant dans les années 60 avec Béjart, etc. Donc la matrice de la danse contemporaine, elle n'est pas du tout là. C'est pas non plus la matrice des théâtres politiques, du happening, etc. Donc c'est un spectacle qui est un peu, oui, qui est une forme d'indigence en fait. Et voilà, mais moi j'étais très content et surtout très très content qu'il le fasse avec son savoir-faire et en même temps sa capacité à aller au bout des choses, c'est-à-dire sincèrement et à ne pas se moquer de son objet dont on peut se moquer, et il ne s'en moque pas, et du coup ça résonne, on entend.
Il faut dire que le spectacle d'origine du Living Theater, on peut le voir très facilement sur des plateformes de vidéos sur Internet pour avoir le spectacle d'origine. Philippe Chevillier, vous voulez enfoncer le clou?
Non, mais simplement sur le théâtre, ce qui est amusant, c'est qu'on peut se dire, oui, on n'a pas d'objet, peut-être Dieu merci, qui soit comme ça aujourd'hui, mais néanmoins, on retrouve le côté participatif. Alors, on peut penser à McCain qui fait venir les gens sur scène, ou les cris, il y a beaucoup de spectacles de collectifs assez, où on entend des voix assez forte, pour ne pas dire plus. La nudité aussi sur scène, il y a des choses qu'on retrouve dans des spectacles d'aujourd'hui, et c'est amusant de les mesurer à l'aune de cette performance qui pouvait être à l'époque révolutionnaire, qui ne l'est plus aujourd'hui. Par ailleurs, je trouve qu'il y a des petits moments, parce que quand on les voit effectivement danser un petit peu comme s'ils avaient fumé la moquette avec des gestes un peu inspirés du yoga, etc., ça peut faire rire. Mais il y a des moments où il y a une puissance de la masse des comédiens et leur investissement et qui font penser un peu, je trouve, au sac du printemps. Il y a une espèce d'énergie comme ça. Et puis, il y a ce joli moment aussi où ils sont avec leur LED allumé de toutes les couleurs, petit moment poétique. C'est, finalement, ça aide à passer les moments les plus décalés. Et ce que vous disiez sur la crainte, non, il y a encore cette crainte du spectateur moi, à la limite, je n'étais pas si craintif que ça, mais j'ai bien vu des gens qui étaient terrifiés à l'idée qu'ils pouvaient être emportés sur scène. Mais comme ils le font très gentiment, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de dénégation. En revanche, ce qui est amusant, c'est de voir aussi que le public est ravi. Il y a une partie qui est ravie d'aller au milieu de la scène, encore une fois. Et ils avaient du mal à les faire partir, presque.
Ça, il y en a toujours. Alors, fort de ces avis éclairés, professeur Brianchon, est-ce que vous pouvez reconsidérer votre propos ou le préciser davantage encore ?
Le préciser peut-être, le reconsidérer... pas réellement, parce que je suis d'une certaine manière d'accord avec Philippe et René. Il est vrai que ce spectacle est de toute façon bien exécuté et que la démarche d'archivage des spectacles passés est de toute façon intéressante. Après, je pense que si, comme d'une certaine manière c'est sous-entendu dans l'entretien que donne Gwenaëlle Morin à Hervé Ponce dans la feuille de le spectacle, programme. Dans le programme, si on considère que en rejouant l'histoire, on peut la renverser. Là, ça me pose problème. Et je pense qu'effectivement, ce spectacle-là ne propose rien d'autre. Et c'est déjà beaucoup, c'est déjà intéressant que d'archiver un spectacle passé. Donc, de cette manière-là, de ce point de vue-là, je suis content de l'avoir vu. Ensuite, si on essaye encore d'y voir aujourd'hui un geste politique revendicatif sur le plan intellectuel aussi bien que formel, on se trompe. Ou alors, si c'est le cas, c'est terriblement malheureux parce que ça veut dire qu'on n'a vraiment pas beaucoup avancé.
Oui, peut-être un petit peu de ça, Philippe Chevillier, pour finir.
Juste une petite chose pour renverser un petit peu justement le propos, c'est que afficher une forme de pacifisme révolutionnaire hédoniste, avec justement cette libération sexuelle et cette joie, d'une certaine façon cette joie, c'est pas mal par rapport à certaines expressions qui sont un peu désespérées de nos jours de certains révolutionnaires. Donc finalement,
oui, voilà. On peut aller participer à des ateliers New Age... je ne sais où.
Non, il ne faut pas tout confondre. René, vous voulez dire un dernier mot ?
Je ne suis pas d'accord sur les ateliers New Age. je pense qu'effectivement, je disais, il y a des époques et je trouve que j'ai l'impression qu'on est à une époque où la roue a tourné, on entend de nouveau mieux tout ce que vous venez de dire, Philippe. Et donc, des choses qui sont en résonance avec des revendications, des inquiétudes, des colères d'aujourd'hui. Donc, bon, il ne faut pas exagérer. Voilà, c'est là. Et de même que il y a des pièces de Brecht qui, à 20 ans, 25 ans, étaient presque inaudibles et qu'aujourd'hui, à la lumière de la crise du capitalisme et de la montée ou de la survivance inouïe d'injustice profonde, il y a des choses qu'on réentend très bien. Et ça, on réentend. C'est-à-dire que 68 retrouve non seulement une portée historique, mais aussi une petite dimension d'actualité, et c'est pas négligeable.
Re-Paradise, Gwenaëlle Morin, d'après le Paradise Now du Living Theatre, c'est jusqu'au 26 mai au théâtre Nanterre Amandier, c'est dans le cadre du festival Les Mondes Possibles.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute spectacle vivant, avec un spectacle qui va beaucoup tourner pour l'instant et jusqu'au 30 mai au Théâtre du Rond-Point, c'est le Paradoxe de Georges, nouveau spectacle de Yann Frisch, l'un des piliers de la magie nouvelle. On avait parlé du syndrome de Cassandre il y a deux ou trois saisons maintenant. C'est l'un des piliers de la magie nouvelle, Yann Frisch. C'est le spectacle qui ouvre un festival que le Théâtre du Rond-Point consacre à cette nouvelle école, je mets beaucoup de guillemets, en fait, cette nouvelle bande, en tout cas, bande dans laquelle on retrouve notamment Valentine Losso, Raphaël Navarro. Navarro, on en avait parlé dans une précédente dispute à l'occasion de leur mise en scène de Faust de Goethe à la Comédie Française. Ici, Anne Frisch est seule en scène, assise dans un fauteuil club, devant une table sur laquelle il va jouer avec des cartes et surtout se jouer de nos sens. Il s'agit en effet d'un spectacle de cartomagie. Il a, pour se faire, aménagé un camion en salle de théâtre installé dans les jardins du rond-point. Il y a beaucoup de musique hein, dans le spectacle de Jan Fritsch parce qu'il y a un gramophone qui joue. Il change souvent de disque. Les disques auront d'ailleurs leur importance. On était tous les quatre le même soir, je vais y arriver, à ce spectacle. Donc a priori, nous avons vu la même chose. Je me souviens que Jean-Christophe Briançon et moi, on est sortis avec un fort mal de tête parce qu'on était tellement énervés par ce spectacle. On va dire pourquoi, mais Philippe Chevillier va commencer. Il s'inquiète de ce que je vais dire. Philippe, ben, tu es assis en tailleur, je crois. Non,
j'étais assis.
Ça risque pas parce que les gradins sont très
en hauteur et assis normalement. Donc je voulais essayer de vous faire disparaître mes fiches, mais j'ai pas eu
le temps. Je peux le faire, moi. Si je les attrape, elles disparaissent, vos fiches.
Non, mais dans la manche que je n'ai pas, enfin bref. Donc a priori, moi j'aime beaucoup la magie. Pas forcément évident de s'emballer sur un spectacle de cartes, mais néanmoins... Non, mais je pense que là on a affaire. Bon, Jan Fritsch qui est un virtuose, hein, champion de France, champion du monde de micromagie. Et ce spectacle, moi, m'a beaucoup charmé. J'étais un petit peu déçu parce que je m'attendais à ce que on nous avait promis. Il se promène en camion et c'est comme ça qu'il réussit à faire une grande tournée. Je pensais qu'on allait être dans le camion et je comprenais pas comment on pouvait être à 80 dans un camion. Donc ça, je me disais, c'est vraiment magique au départ. Donc finalement, le camion est un peu déballé. On est un peu au cul du camion avec une tente par-dessus, un parallélépipède, un chapiteau, ouais. Et voilà. Et il y a un petit univers, genre un petit cabinet de magie, un petit bureau, une petite chambre à coucher avec des disques, etc. Et donc, on va avoir assisté à un certain nombre de numéros qui sont tous extrêmement virtuoses, qui utilisent le public. On a des cartes qui évidemment disparaissent, réapparaissent, qui volent. On a de la manipulation d'une main, une manipulation les yeux bandés. On a le droit un petit florilège, et sur une heure, ça tient pourquoi? Parce que il y a Jan Fritsch qui nous fait un petit monologue qui est assez amusant, qui au départ se moque un petit peu du public, de ce que nous sommes, de la réaction, des gens qui rient. Pourquoi rit-on d'ailleurs à des tours de cartes? Est-ce que ça a de drôle au fond? Les gens qui résistent, et puis ça devient un petit peu plus philosophique, mais pas lourdement. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on arrive à poser effectivement la question de l'enchantement du public par rapport à la magie, mais aussi par rapport au théâtre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on lâche prise et qu'on a envie de croire ce qu'on voit, qu'on a envie de croire que c'est surréel, que c'est magique, et donc moi je me suis laissé embarquer dans ce spectacle qui est agréable, qui fait partie d'un tout hein, puisque c'est un festival de magie nouvelle. Voilà, quoi en dire de plus, je trouvais ça très agréable.
Vous avez laissé la main à vos camarades et René Solis, par exemple. Vous aviez vu le spectacle à sa création et vous ne l'avez pas revu, René.
Oui.
Vous étiez là l'autre soir.
Moi, je suis bon public. J'étais aussi très admiratif, tout bêtement, de sa dextérité absolument stupéfiante. J'étais aussi quand même admiratif d'une chose. En tout cas, je trouve qu'il est bon sur une chose. Et on a quelquefois tendance à oublier que le music-hall et le cirque, c'est aussi des endroits où il y a des très bons comédiens. Et lui, c'est vraiment un très bon comédien. Il est excellent parce qu'il arrive à nous embarquer. Ça fait partie d'ailleurs de la. Il explique lui-même comment embarquer les gens fait partie du boulot, puisque c'est une façon embarquer les gens dans une direction. C'est aussi une façon de préparer ses tours pendant qu'on regarde ailleurs. Et donc il fait ça très bien, il a une façon formidable de détourner l'attention et de raconter comment il le fait, pourquoi il le fait. Donc il est tout le temps dans une mise en perspective de ce qu'il fait. Donc j'ai été plutôt au départ extrêmement emporté et séduit. Au bout d'un moment, je trouve que ça a tendance quand même à tourner un peu en rond, c'est-à-dire que il est dans une démonstration qui ne progresse pas beaucoup finalement, et donc on se retrouve à un moment à attendre plus que ce qu'il peut donner tout simplement, et donc on voudrait que ça aille envie que ça aille de plus en plus loin, et finalement on en ressort avec un petit sentiment de frustration peut-être, mais encore une fois j'ai trouvé ça remarquable, et surtout je trouve que c'est un remarquable acteur, et que rien que pour ça il est très très bon. C'est un manipulateur, non seulement avec ses mains, mais avec ses mots, son corps. Voilà.
Jean-Christophe Briançon, je disais qu'on était énervé en sortant du spectacle, était énervé de ne rien comprendre à ce qu'on venait de voir et d'être nous-mêmes manipulés tellement, parce que quand René vous dites au bout d'un moment ça tourne en rond, enfin il y a quand même des choses et plus ça va et le final quelque chose d'absolument
le final est
normalement impossible.
Ouais, particulièrement impossible.
Donc c'est très agaçant, Jean-Christophe Briançon.
Non, effectivement, on en sort avec un mal de tête certain si on cherche à comprendre. En revanche, je suis pas forcément d'accord avec vous, René, quand vous dites qu'on attend de lui quelque chose de plus que ce qu'il pourrait finalement nous donner. Ou en tout cas, alors ce n'est qu'un présupposé, mais j'ai eu le sentiment que justement, alors c'est un peu condescendant de ma part ce que je veux dire, mais attention. J'allais dire avec un peu plus de travail, il a les capacités de nous donner le discours supérieur à ce qu'on entend. J'ai quand même l'impression qu'on a affaire à quelqu'un de particulièrement malin et... quelqu'un qui, en l'occurrence, s'est documenté sur l'histoire de son art, sur la manière de le faire, sur la réception que peut avoir le public d'un spectacle de magie. C'est quelqu'un qui sait et qui pense apparemment bien. Donc je pense qu'en fait, il aurait pu nous amener plus loin si peut-être il avait fait durer le spectacle un petit peu plus longtemps ou s'il avait essayé de travailler justement ce discours qu'il diffuse entre les numéros, s'il l'avait travaillé un petit peu plus. Parce que c'est un discours qui est quand même... assez intéressant, je trouve qu'il effectivement, comme le disait Philippe, relève de la philosophie assez gentille et pas forcément ni lourde ni complexe, mais qui en tout cas est intéressante quand il ne cesse en fait de travailler tout au long du spectacle cette à la fois la frontière entre la croyance et le savoir. Une frontière qu'il travaille à partir du paradoxe d'Edouard Moore qui selon lequel Edouard Moore qui disait la phrase il pleut mais je ne crois pas qu'il pleuve, il travaille ce paradoxe là d'Edouard Moore en l'adaptant à la magie et en nous montrant que le spectateur d'un spectacle de magie se situe exactement à cet endroit là de la réflexion, à cet endroit là du réel, puisque il prend l'exemple d'une carte qui vole et c'est exactement ce que se dit le spectateur de ce spectacle, c'est je vois cette carte qui vole, mais je ne crois pas qu'elle vole, évidemment. Donc c'est toute cette petite réflexion là entre ce que je sais, ce que je crois, ce que j'ai envie de savoir et ce que j'aimerais croire, puisque finalement dans le fond je n'y crois pas. Et tout ça c'est assez intéressant, assez finement mené, effectivement avant tout par un jeu d'acteur qui est assez remarquable, qui est à deux doigts de tenir du one-man show, en fait, hein, et qui, aussi bien par son phrasé que par son attitude physique, parce qu'il joue beaucoup de son visage, de ses expressions de bouche, de regard, de ses mains, et c'est un jeu très expressif qui nous amène vraiment quelque part et qui, au-delà de créer un propos et des tours, crée un réel personnage.
Oui, puis je crois qu'il est, il est très jeune, hein, Yann Frey, je crois qu'il a 27, 28
ouais,
ans.
Oui, je crois qu'il a 28 ans, j'ai
voilà,
cru lire ça.
Très jeune homme, donc il a un bel avenir devant lui. Vous dites Édouard Moore, Édouard Moore, alors du coup je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, Jean-Christophe Briançon? C'est Georges Édouard Moore, donc c'est le paradoxe Georges de Georges, et non pas le paradoxe d'Édouard, hein, le titre du spectacle. Édouard étant son deuxième prénom.
Et il aimait bien qu'on l'appelle par son deuxième prénom.
Ah, vous l'avez bien connu, ouais. Georges Édouard Moore. Moi je suis aussi, je suis René Solis sur la... les qualités de comédien, parce qu'on a, on a presque à faire un stand-up de magie, enfin, finalement. Parce qu'il y a un festival de stand-up, d'ailleurs, aussi, au même moment, quasiment, au Théâtre du Rond-Point. Enfin, je crois que c'est la semaine prochaine. Et il y a un savant mélange des deux, parce que le spectacle précédent dont on avait parlé ici de Yann Frisch, c'était Le Syndrome de Cassandre, qui était quelque chose de beaucoup plus noir. Enfin, il y avait vraiment une ambiance très particulière qu'il avait réussi à créer, un peu inquiétante. Pas vraiment tout public, là, je pense que c'est absolument tout public, le paradoxe de Georges. Mais alors, comme il y a beaucoup de dates, je vais m'arrêter là et prendre le temps de donner les dates de tournée de ce spectacle de Yann Frisch. Alors, en rappelant que le festival Magie Nouvelle, il se poursuit jusqu'au 31 mai au Théâtre du Rond-Point à Paris. Donc, il y aura également Clément de Bailleul, Yann Frisch, donc Valentin Losso, Raphaël Navarro et Étienne Saglio. Paradoxe de genre jusqu'au 30 mai. Et puis ensuite, on pourra voir Yann Frisch et ce spectacle au festival Le Mans fait son cirque du 26 juin. Au 1er juillet, il sera l'invité d'honneur des Nuits de Fourvière à Lyon entre le 6 et le 11 juillet. Lui-même d'ailleurs aura des invités. On le verra plusieurs fois dans le Festival Paris l'été, du 24 au 28 juillet à La Villette, puis du 31 juillet au 4 août au Montfort. Ensuite, on le verra à Boulazac au mois d'octobre. Et puis à la scène nationale du Sud Aquitain à Bayonne. Oui, ce sera ça qui sera en novembre. Bon, je me mélange un petit peu dans les dates, mais il y a beaucoup de choses. Vous voulez dire quelque chose encore, Philippe Chevillier?
Juste une petite chose, c'est qu'au fond, quand on dit nouvelle magie, on pense...
Magie nouvelle.
Magie nouvelle, on pense au nouveau cirque, c'est parce que je pense au nouveau cirque où le nouveau cirque, c'est vouloir faire en sorte que ce ne soit plus une succession de numéros, mais un vrai spectacle. Et c'est ce qu'on
c'est
a un
cas.
Peu aussi sur le spectacle de Yann Frisch.
Voilà. Très bonne conclusion pour parler du paradoxe de Georges. Magie. Aïssa Tundoy n'est plus là, mais c'est Camille André qui est à sa place. C'est extraordinaire. Après avoir live tweeté comme tous les soirs, elle est là avec nous pour le jeu de la dispute. Pour nous rappeler d'abord la question de vendredi soir, Camille nous donnait sa réponse. Enfin.
Eh bien, on se posait comme question, dans quel film réunissant nul autre que Jean Marais, Michel Simon, Claudia Cardinal, Orson Welles, trouve-t-on Pierre Mondy dans le rôle de Napoléon? Et il s'agit d'Austerlitz d'Abel Gance.
Ce soir, on change de genre avec des invitations à gagner pour le spectacle au bois, d'après le texte de Claudine Galéa, mise en scène Benoît Pradel, à la Colline à Paris. Les places sont à gagner pour ce jeudi soir, le 10 mai, à 20h. Quelle est la question, Camille?
Eh bien, une question assez simple. De quel célèbre conte est inspiré le spectacle au bois?
Laisse savoir, il y a un piège dans votre question. Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast de la dispute. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain, 19h, dispute musique avec Lucille Comeau, Emmanuel Dupuis et Mathieu Conquet. Nous parlerons de Lohengrin, Wagner, direction Alain Tinoglu, mise en scène Olivier Py, qu'on peut voir sur arte.fr. Un DVD d'opéra, Werther, de Jules Massenet, mise en scène Tatiana Gorbatcha, direction Cornelius Meister. Et puis un disque, Louis Couperin, par Pavel Kolesnikov.